Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau une femme d'affaires que la presse surnomme la papesse des influenceurs. Avec son agence Shona Events, cette chroniqueuse a accompagné de nombreuses stars du web dans des placements de produits. Ses détracteurs portent de lourdes accusations à son encontre. On y reviendra au cours de cette émission. Et si elle vient nous voir aujourd'hui sur ce plateau, c'est justement parce qu'elle a décidé de contre-attaquer. Comment ? En lançant une entité grâce à laquelle elle espère mieux encadrer le métier d'influenceur. Bonjour Magali Verda.
Bonjour Damien.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Ça va, super. Merci de nous faire l'amitié de vous arrêter ici au Buzz TV. Début mars, donc, vous avez annoncé le lancement de la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. Donc, c'est une organisation, on va le dire, dans laquelle vous souhaitez rassembler un maximum d'influenceurs pour deux raisons principales. La première, c'est lutter contre les pratiques irrégulières. Et la deuxième, c'est mieux former les stars du web pour qu'elles respectent un petit peu le cadre légal. Au cours de ces derniers mois, c'est vrai que vous avez été dans l'œil du cyclone, hein, vous, ouais. Magali Berda. Est-ce que la création de cette structure, quelque part, c'est pour vous faire pardonner ou pas du tout?
Non, pas du tout. J'ai absolument rien à me faire pardonner. Je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais avec les moyens que j'avais. Non, pas du tout. C'est parce que c'est juste la continuité de ce que j'ai commencé à faire depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire demander une régulation de ce métier qui est assez flou, même s'il est, il y a le code de la consommation qui est très clair, mais c'est quand même un nouveau métier. Et si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a, des failles. Donc, il faut, faut les régler, ces failles. Voilà. Et j'avais demandé ça il y a quelques années. Donc, j'ai eu un an un peu compliqué, là où je n'ai pas pu travailler dans de bonnes conditions. Et puis là, petit à petit, j'essaye de m'y remettre. Donc, voilà.
Alors c'est vrai, comme je le disais, vous avez été dans l'œil du cyclone, dans la mesure où la couverture médiatique a été incroyable à votre rencontre. Elle a été très dense, vous avez été victime de cyberharcèlement, vous avez été critiqué de toutes parts. Bref, cette affaire a eu des proportions hors normes. Qu'est-ce qui vous retient finalement dans ce monde des influenceurs? Est-ce que vous n'avez pas été tenté à un moment donné de tout plaquer pour repartir à zéro et faire un tout autre métier quelque part?
Alors, très honnêtement, tout plaquer, oui, parce que c'est un monde qui est malheureusement rempli de beaucoup d'hypocrites. Quand même un peu de gens bien, heureusement d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'hypocrites, beaucoup de... En fait, on tombe de haut quand on subit un acharnement et un lynchage pareil, on tombe de haut. Donc, pour ces raisons-là, on se dit, mais ces gens-là, je ne parle pas des influenceurs en particulier, je parle vraiment de toute cette sphère médiatique, politique, etc., et publique. Ça, oui, j'ai eu envie à un moment donné, et des fois même encore maintenant... Voilà. Et puis finalement, quand on subit un tel lynchage et un tel acharnement à tous les niveaux, sur le plan professionnel, personnel, etc., y a deux solutions. C'est soit on crève, soit on avance. Et le choix s'est posé devant moi à plusieurs reprises. Oui. Est-ce que j'ai envie de mourir ou est-ce que j'ai envie de continuer? Et à chaque fois, j'ai eu envie de continuer, heureusement. Et puis finalement, je me dis, maintenant, je vais avancer. Et j'y vais, quoi. Et puis regardez-moi et continuez à critiquer. En attendant, j'agis, je fais, et faites-en de même. Peut-être que si vous aviez été à ma place et fait ce que j'ai fait depuis des années, peut-être que vous auriez fait même bien pire que moi.
Et c'est comme ça, effectivement, que vous avez donné naissance à la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. On va y revenir dans quelques instants, mais tout d'abord, on découvre les news médias avec Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah.
Salut Damien, bonjour Magali.
Bonjour.
Allez Sarah, c'est parti, on commence les infomédias avec Cyril Hanouna, coupé au montage de quelle époque?
Oui, et c'est Éric Zemmour qui l'a révélé dans TPMP. En fait, samedi dernier, Léa Salamé a interrogé l'ancien candidat à la présidentielle sur plusieurs personnalités, lui demandant ce qu'il poserait comme question, notamment à Vladimir Poutine, Marine Le Pen, Marion Maréchal. Voilà, c'est une séquence récurrente du talk show appelé Photocall. Et la photo de Cyril Hanouna est apparue, sauf que les téléspectateurs ne l'ont pas vue. J'ai eu tort, j'aurais dû vous taper dessus, a regretté Éric Zemmour. Alors, contacté, la production de Quelle Époque a confirmé que Cyril Hanouna avait été coupé au montage. Mais sa photo n'est pas la seule à avoir été coupée, celle de Joe Biden aussi. La production rappelle que l'animateur de TPMP a demandé expressément à ne plus apparaître dans Quelle Époque.
Magali, vous êtes également chroniqueuse sur C8, de façon assez régulière dans les talk-shows de Cyril Hanouna. Quelle est votre relation aujourd'hui avec l'animateur-producteur? Vous partagez un peu moins les plateaux avec lui ces derniers temps. Vous êtes plutôt dans la déclinaison People, je crois,
de cette émission. J'étais pas en état, on va dire. TPMP, c'est une émission qui est prenante, dans laquelle on doit être à 100%. On est investi dans ces débats Et puis en même temps, on passe du rire aux larmes, aux cris. C'est une émission qui est intense. Et moi, psychologiquement, depuis malheureusement presque un an, Je ne suis pas en état de encore, peut-être bientôt, j'espère, ça va revenir. Mais j'y vais petit à petit. Et c'est vrai que Mathieu, c'est une émission qui est plus légère.
Mathieu Delormeau, oui.
Voilà, sur TPMP People, avec du people, etc. Donc, pour l'instant, petit à petit, je refais mon chemin.
Vous n'avez pas fait un trait définitif sur TPMP?
Non, pas du tout. C'est vraiment, je ne peux pas... Enfin, voilà, ils sont dans un... Voilà, c'est une sphère. Ouais. Et c'est vrai que si on parle d'un sujet et que moi, d'un coup, bah, je me mets à pleurer parce que j'ai des moments un peu compliqués, des fois, dans la journée. Et c'est pas... Voilà, ouais. Donc, petit à petit, je me remets psychologiquement de tout ce qui m'est arrivé.
Mais malgré tout, face à Cyril Hanouna, lorsque vous étiez dans Touche pas à mon poste, pour évoquer justement cette affaire autour des influenceurs, vous aviez déploré le manque de solidarité aussi de l'équipe de Touche pas à mon poste. Est-ce que vous avez réussi à passer l'éponge sur ce que vous déploriez à l'époque ou bien ça vous reste encore un peu en travers de la gorge?
En étant tout à fait honnête, l'ensemble du traitement de ce dossier met en travers de la gorge, mais pas que de ça. Pas que de plein de monde et de plein de voilà, c'est compliqué pour moi.
Le traitement médiatique a été difficile
à
digérer.
Oui, parce qu'il y a eu un acharnement de certains médias, notamment par exemple comme Le Parisien, qui se sont complètement, c'est des articles à charge toutes les semaines. On dirait que c'est une volonté d'aller charger, de trouver un truc pour le déformer. Enfin bref, et plus après la reprise de tout le monde, et on rentre dans une spirale qui est très compliquée à vivre. Ouais. Donc après, je peux comprendre aussi que les gens, d'un point de vue extérieur, ne vivent pas ce que moi j'ai vécu d'un point de vue intérieur. Donc peut-être qu'ils ne l'analysent pas comme moi. Donc j'essaye de comprendre. Mais oui, je l'ai en travers de la gorge, évidemment.
Allez, on termine ces infomédias avec le chiffre du jour, 2.
Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs réunis devant le lancement de Mario Premier Regard saison 7 sur M6. Ça représente un peu plus de 10% de part d'audience. C'est un peu moins que le lancement de la précédente saison qui avait rassemblé l'année dernière 2 300 000 curieux.
Bon, Magali, vous regardez quoi, vous, à la télévision en ce moment? Parce que, bon, vous avez vu à la télévision, je touche pas à mon poste, je le disais, les princes et les princesses de l'amour aussi sur W9 à un moment donné. Vous regardez quoi, la télé-réalité encore un petit peu?
Écoutez, là, très honnêtement, je suis plutôt sur un Netflix.
Vous avez migré.
Voilà, j'ai migré. Je suis plutôt en mode série en ce moment, un peu prenant pour m'occuper un peu la tête, c'est très bien.
Des trucs très joyeux alors, c'est ça?
Pas forcément, mais quelque chose de prenant pour
changer les idées,
pour s'évader un peu.
Pour changer un peu les idées. Bon, allez, vous êtes ici en tout cas pour nous parler d'une nouvelle structure. Ça s'appelle la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. Vous avez annoncé la création de cette entité début mars. Quel est l'objectif de cette organisation, très concrètement?
Eh bien, l'objectif, c'est de demander clairement des règles, d'avoir des interlocuteurs, parce que c'est très difficile d'avoir des interlocuteurs. Moi, j'ai couru après le cabinet du ministre de l'Économie pendant... quasiment un an et demi, pour avoir un rendez-vous, pour alerter sur ce qui se passait. Donc, je me dis qu'avec une fédération, ce sera peut-être plus simple. Et puis, surtout, pour encadrer les choses, essayer de donner des idées avec ce qu'on vit, nous, sur le terrain, de pouvoir apporter notre vision des choses et de pouvoir accompagner les influenceurs. Les influenceurs, ça ne doit pas être l'ennemi public numéro un. Les influenceurs, ça doit être, au contraire, un outil pour de la communication, de la belle communication pour les entreprises, pour plein d'autres causes. Et je pense qu'il est temps de réconcilier un peu tout ça et de dire, voilà, il y a peut-être des choses qui ont été mal faites, peut-être qu'il y a des choses, il y a des gens qui se comportent mal, mais il y a aussi des gens qui ont envie de bien se comporter. Et ces gens-là, ils méritent d'être encadrés et d'être écoutés.
Et ça, vous le reconnaissez, oui, les mauvais comportements qu'il y a eu le passé? Ça,
c'est
amende honorable.
Mais comme partout, vous savez, chez les journalistes, vous avez des bons et des mauvais. Chez les acteurs, il y a des bons et des mauvais. Et chez les influenceurs, il y a des bons et des mauvais. C'est normal. C'est impossible d'avoir un monde parfait. Ouais. Mais il n'y a pas de règles chez nous. Donc, il faut mettre des règles pour justement pointer du doigt les mauvais, arrêter de faire des amalgames. Ce qu'il faut arrêter aujourd'hui, c'est cette diabolisation et ces gens qu'il faut à tout prix faire tomber. Alors qu'en fait, la plupart ne savent même pas de quoi ils parlent.
Et comment on régule le métier? Comment on...
Les détracteurs, je parle, ne savent pas de quoi ils parlent.
On avait compris.
Et comment on régule le métier? Comment on éloigne les mauvais?
Déjà, il faut donner des règles. Déjà, il faut appeler un influenceur. Donc, créer un code APE, déjà. Ensuite, il faut mettre des règles, des formations. Il faut les alerter sur des suspicions de fraude. Je pense qu'il y a assez de gens aujourd'hui qui sont sur le terrain pour alerter. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui sont très compétents aussi, sur lesquels il faut s'appuyer, il faut être aidé de ces gens-là. Moi, je suis totalement pour les lanceurs d'alerte, les vrais lanceurs d'alerte, bien sûr. Quand on voit que quand on forme quelqu'un, quand on lui donne les règles claires et que tu ne le respectes pas une fois, deux fois, trois fois, c'est que tu cherches les problèmes. C'est qu'en fait, tu t'en fous royalement des règles. Et bien là, tu deviens un problème. Et donc, il faut agir. Voilà, c'est tout. Et
sanctionné.
Évidemment. Mais quand il n'y a pas de règles, quand on donne... Aujourd'hui, n'importe qui peut être influenceur. C'est-à-dire quelqu'un qui a 18 ans comme quelqu'un qui a 95 ans. Bon, j'exagère un peu, mais c'est une vérité. Sans aucune demande de connaissance particulière du code de la consommation. Donc, on ne peut pas... Alors, oui, on vous dit, mais oui, tu dois être responsable. Oui, mais ça va vite. Et Internet va vite. Internet, c'est un monde qui va très vite. On peut tout faire sur Internet. On peut faire beaucoup de mal sur Internet. Donc, vous vous doutez bien que la personne qui a 25 ans, qui ne connaît pas le code de la consommation, qui n'a pas forcément fait d'études, qui ne voit pas forcément le mal quelque part, bah, il va y avoir des dégâts. Donc, il faut entourer cette personne de 25 ans qui a un impact aujourd'hui sur les gens et il faut l'aider à être bon. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui veulent être bons. Il y a beaucoup d'influenceurs qui veulent apprendre et qui sont prêts à accepter les règles. Comme il y en a qui ne sont pas prêts. Et cela, il faut carrément les radier des réseaux sociaux.
Il faut les radier.
Bien sûr.
Mais très concrètement, est-ce que ça va bouger? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit autour de ce monde des influenceurs ces derniers
temps. C'était à la mode. J'aurais préféré effectivement qu'on travaille plus en... Vous savez, moi, ça fait un an maintenant qu'il y a le sujet. Ouais. Ça fait un an que je me fais lyncher. Ça fait un an qu'il y a eu quasiment 23 personnes arrêtées par la police pour cyberharcèlement aggravé et autres, hein, tentatives de chantage aggravées, etc. Bon, j'en passe. Et puis, j'aurais préféré que les gens dans la sphère politique se disent, déjà, on va vous entendre. Déjà, on va vous écouter avant de juger. Hein, et c'est le rôle de la France, on est en démocratie, on est dans un état de droit. Donc, et on se retrouve aujourd'hui jugés, condamnés par des gens qu'on ne connaît pas, qui ne savent pas, qui ne nous ont jamais vus, qui ne nous ont jamais parlé, qui ne sont jamais venus. Enfin, voilà, c'est ça qui ne va pas en fait.
C'est en train de bouger en ce moment. Bruno Le Maire a lancé une concertation en janvier dernier, justement. Les conclusions devraient arriver de façon très imminente. Normalement, on doit avoir une réunion du côté de Bercy qui doit se tenir pour justement donner les conclusions de ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que vous avez déjà des informations?
J'aurais préféré qu'on n'attende pas un sacrifice humain. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est un sacrifice pour moi.
Le cyberharcèlement, vous voulez dire?
C'est une mise à mort publique. Il y a eu des arrestations pour menaces de mort aggravées. Ouais. Donc, cyberharcèlement aggravé, c'est menaces de mort, décapitation, etc. Il y a des gens qui ont écrit, un célèbre rappeur qui a écrit « J'irai jusqu'à la mort ».
Parler de Booba, bien sûr.
On ne peut pas attendre ça pour dire « Ah, tiens, il y a peut-être un sujet là qui fait parler. Ah, il y a 6 millions de personnes qui suivent, donc on va s'en occuper. » On peut pas, c'est pas, pour moi, ça, ce n'est pas normal. Donc, j'aurais préféré qu'on se saisisse du dossier bien avant. Et tant mieux si ça bouge. Et j'ai envie de dire, si il fallait attendre que je me foute en l'air pour que ça bouge.
Comment vous avez fait pour vivre avec ces torrents de haine? Vous avez reçu des dizaines de milliers de messages haineux, effectivement, à la suite d'un raid numérique, ça s'appelle comme ça, quand on reçoit effectivement de nombreux messages. Comment vous avez fait pour vivre toute cette période?
Je ne suis pas encore capable de l'analyser, en fait. C'est-à-dire que là, je suis en phase de... J'essaye de me reconstruire. Je pense que j'ai mené le cap. Vous savez, la femme, elle a des capacités qu'on ne connaît pas. Et je pense que ce que j'ai subi, c'est inhumain. Et j'ai réussi à le passer. J'espère que ça va vite s'arrêter parce que je commence à être à bout. Je suis à bout et c'est épuisant. C'est la longueur en fait qui est dure. Il faut tenir presque un an, c'est compliqué. Je mets quiconque au défi de subir ce que j'ai subi et après de pouvoir s'exprimer comme ça. Et ça a été vraiment un combat. En fait, j'ai fait une guerre avec moi-même pour tenir en fait. Donc c'est très très compliqué. Mais ça, c'est malheureusement ce que vivent beaucoup de victimes du cyberharcèlement. Et il est temps que tout ça bouge et qu'on comprenne que le cyberharcèlement, c'est criminel et qu'un cyberharceleur ne s'arrête pas tant que sa victime n'est pas complètement HS. Donc, il faut l'arrêter avant que la victime perde pied. Donc, il y a un sujet qui est profond avec ce dossier et j'espère que tout le monde en tirera les conséquences. Et quand vous me demandiez tout à l'heure par rapport aux gens, est-ce que je l'ai en travers de la gorge? Oui, parce que j'espère que ces gens, peut-être à un moment donné, un jour, comprendront ce qui s'est vraiment passé et l'ampleur de ce qu'il y a eu et ce que ça peut avoir sur un être humain.
Et est-ce que toute cette histoire autour de ce scandale vous a fait changer votre manière de vendre les placements de produits?
Non, parce que nous, on avait déjà fait un tri. Comme je l'avais dit d'ailleurs à plusieurs reprises, on avait déjà fait un tri depuis plusieurs années. Ouais. On était déjà dans une... En fait, ça fait nous des années, le dropshipping, depuis 2020, on a... commencé vraiment à le limiter, on a embauché des juristes, on a mis des choses en place.
Le dropshipping, c'est le fait d'acheter des produits très peu chers sur une plateforme
moyenne. Non, pas du tout, c'est juste le fait de faire livrer directement du fabricant au consommateur sans passer par un stock, par exemple, en France. Ouais. Voilà, donc...
Ça déjà... Et vous avez des regrets sur la façon d'avoir exercé votre métier par le passé ou pas?
Vous savez, moi, j'ai vendu ma société en 2018. À partir de 2018, je ne tenais plus les rênes de l'entreprise. Donc... Donc, les décisions, je ne les prenais pas. Voilà. Mais donc, moi, en ce qui me concerne, c'était 2016-2017. Et je n'ai pas eu de problème en 2016-2017. Enfin, il y en a eu un que j'avais totalement assumé. Et on avait d'ailleurs nous-mêmes remboursé les gens. Donc, je n'ai pas de soucis. Mais je pense que même les repreneurs de la société ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ce n'est pas pour les accabler, dire oh, c'est de leur faute, pas du tout. Parce que j'ai quand même travaillé avec eux et j'étais salariée de cette entreprise. Donc, je sais qu'ils ont vraiment mis les moyens pour faire quelque chose de constructif.
Voilà. Est-ce que vous êtes parvenue à retrouver une vie normale après cette histoire du cyberharcèlement, après ce scandale?
Non, absolument pas. Non, mais je suis encore en plein dedans. Hein. On m'a massacré ma voiture jeudi dernier. Ils se sont acharnés sur ma voiture, mais ils ont cassé toutes les vitres et toutes les portes de ma voiture. Ils ont cassé l'entrée de mon bureau, enfin la porte de mon bureau trois fois en un mois et demi.
Quand vous dites ils, qui sont ces gens qui...
Je pense que c'est les pirates, ouais. J'appelle ça les...
C'est-à-dire ceux qui suivent le rappeur dont vous parliez tout à l'heure, à savoir Booba.
Moi, avant ça, j'avais des agressions sur les réseaux, parce que sur les réseaux, c'est un monde où on est constamment... c'est ça aussi le problème, hein, c'est qu'on me dit souvent « Ah oui, mais elle s'est déjà plainte d'avoir été harcelée. » Bah oui, mais en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que ça, c'est réel, puisque effectivement, on m'avait déjà harcelée, mais la personne avait été en garde à vue, donc ce n'est pas des choses que j'invente, c'était réel. Une personne a été arrêtée, mais je pense que le vrai problème vient des plateformes. Je pense qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et se dire que les vrais problèmes viennent des plateformes et tous les influenceurs, toutes les personnes médiatisées se font défoncer sur Internet. Et puis, pas que, les enfants, les jeunes. Ils vous ouvrez 14 comptes avec... tout seul, vous pouvez avoir 40 comptes et harceler un pauvre gamin de 16 ou 17 ans.
Ça mène à des suicides aussi, il faut le rappeler.
C'est très grave ce qui se passe. C'est très, très grave.
Ouais. Et en 2020, on a noté, Shauna Evans a enregistré un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Est-ce que depuis l'affaire, les rentrées d'argent sont un peu moins importantes qu'avant?
C'est marrant parce que dans la presse, ils ont dit « Oui, Shauna Evans a chuté en chiffre d'affaires. » Alors non, ce n'est pas chuté. Et je l'ai expliqué très clairement dans la presse. Et c'est bizarre comme ils manipulent les mots. J'ai dit... On n'a pas hésité, donc ça c'est le groupe repreneur, elle n'a pas hésité effectivement de passer de 40 à 20, de diminuer, alors je ne sais pas les chiffres exacts, je ne veux pas m'avancer sur les chiffres et dire de bêtises, mais de diminuer le chiffre d'affaires en refusant justement des sites internet.
Oui. Justement, vous êtes prête à ça.
Ça veut dire que, mais ça a été fait de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021, où nous n'avons absolument pas peur de diviser, de diminuer un chiffre d'affaires pour que ce travail soit propre et qu'on dure sur le long terme. Le but d'une entreprise, c'est de durer sur le long terme, ce n'est pas de durer 2 ans.
Donc, c'est important de le dire, c'est que vous ne cherchez pas le profit par-dessus tout.
Mais bien sûr, pas du tout. Il y avait aucun... Et d'ailleurs, ça, je l'ai dit bien avant les histoires d'harcèlement. J'ai fait des interviews où je le disais déjà. Donc en fait, ils ont repris mes mots que je disais en 2020 pour les mettre maintenant en disant « Shauna Evans a baissé ». C'est toute la manipulation, franchement, c'est aberrant ce qui se passe en France dans la manipulation médiatique. C'est triste. Ce qu'on ne voit pas dans les autres pays, les influenceurs dans les autres pays du monde ne sont pas accablés comme ils peuvent être. Et pourtant, c'est la même chose, ils ont fait les mêmes erreurs. Aux États-Unis, je crois que c'est Kim Kardashian qui avait été, ou Kylie Jenner, je ne sais plus laquelle des deux, a été condamnée à une amende de je ne sais plus combien aussi. Mais c'est pas devenu l'ennemi public numéro un du pays, quoi. Je veux dire... aujourd'hui, et personne ne peut le nier, on va se tutoyer, on se voit, on se tutoie en vrai. Mais vous le savez, comme vous l'avez dit au début, l'année a été dans un lynchage. Je pense que j'ai été traitée, et je suis traitée pire qu'un criminel.
Vous pensez que ça va s'arrêter? Je vous pose cette question parce que très récemment, le 18 mars dernier, Booba justement a annoncé qu'il allait se retirer de cette guerre qu'il a menée contre ce qu'il appelle les influx voleurs. Est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter grâce à ça?
Je ne crois plus en rien de sa part. Plusieurs fois, il a désactivé son compte Twitter où les gens ont cru que c'était moi. Alors, il a fait sous-entendre que c'était moi qui avait désactivé ses comptes de Twitter et que du coup, quand il désactive, j'ai tous ces fans qui me tombent dessus, qui m'insultent pendant 2-3 jours parce que j'ai désactivé le compte de leur star. Et puis finalement, 2 jours après, il est revenu en disant « je l'avais désactivé, tout fier ». Pour moi, c'est bien plus profond le concernant et c'est quelque chose de compliqué. Je n'attends absolument rien. De cette personne, j'attends que de la justice. C'est la seule chose que j'attends aujourd'hui, c'est la justice. Et ça sera la meilleure solution pour moi, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais la justice, elle parle, parce qu'il y a des enquêtes, des vraies enquêtes, des vraies choses qui se passent, et c'est tout.
Voilà. Et d'ailleurs, c'en est où? Il y a un procès
Il y a l'enquête qui est en cours, donc je ne peux pas m'exprimer sur l'enquête, mais il y a eu effectivement plusieurs arrestations. Je crois qu'il a été convoqué, de ce que je sais, parce que je ne sais pas grand-chose non plus. Hein, oui. Il n'y est pas allé. En tant que grand justicier, j'aurais préféré qu'il réponde de ses actes, évidemment, et au moins être entendu. Mais après, peut-être qu'il le sera. Je n'en sais rien. En fait, je n'ai aucune information sur cette enquête, mais j'ai une entière confiance dans les services qui la suivent, qui sont des services de la gendarmerie, et qui, grâce à eux, m'ont maintenu en vie. Voilà.
Une question, Magali, parce que je suis très vénale comme personnage. Admettons que je suis une star du web. Vous voyez, je suis suivi par 100 000 followers.
On vous l'êtes déjà un peu, Damien. Faut pas vous estimer.
Vous faites 100 000 moins 99 000 et c'est à peu près les personnes qui me suivent. Vous savez.
Puis vous avez supprimé votre compte Instagram.
En plus, figurez-vous.
Ah bon, voyez, il va falloir le réactiver.
Je vous expliquerai pourquoi. C'est une très très longue histoire. Oui, okay. Admettons que je suis suivi par 100 000 abonnés et je me dirige vers vous, Magali Berda, Shona Evans. Quelle est la rémunération que je peux espérer percevoir en postant une photo sur mon compte. Aujourd'hui, à peu près, au regard du marché, qu'est-ce que ça peut
m'apporter ? Alors aujourd'hui, les followers ne veulent plus rien dire.
Ah bon ?
Non. Aujourd'hui, c'est l'engagement des gens qui vous suivent. Vous pouvez avoir 100 000 followers et être plus et valoir plus cher qu'un influenceur qui a 1 million de followers.
C'est pas vrai.
Oui. Ah ouais, c'est nouveau ça.
Ça veut dire que vous avez 100 000 followers, mais c'est des fidèles.
C'est-à-dire que vous avez 100 000 personnes qui vous suivent, qui sont très engagées et qui consomment beaucoup et qui vous suivent dans tout ce que vous faites. Donc là, vous êtes vraiment... Donc aujourd'hui, le prix, il ne dépend plus du nombre de followers.
C'est le taux d'engagement, en fait.
Exactement.
Ah, et qui a la cote en ce moment ?
Il y en a beaucoup qui ont la cote.
Et parmi les influenceurs
Oui, il y en a beaucoup. Bah, il y a toujours les voilà.
Les têtes d'affiche,
bien
c'est
sûr.
Qui,
c'est toujours Nabila, Jessica, Maëva. Ouais. Voilà, vous avez toujours ces Mila, Laura Lempicka aussi, qui avance très, très bien. Ilona.
Bref, Elisabeth Borne aussi, si elle réactive son compte Instagram, vous lui proposeriez des placements de produits ou pas ? Elle pourrait faire quoi
C'est une star, moi, je l'adore.
Et qui a perdu un peu ?
Qui a perdu
et qui vous a peut-être étonné, vous avez dit
franchement je ne peux pas donner des noms comme
parce que quoi.
Non voilà
mais je tentais je vais pas aller
ça arrive l'heure de toute façon il faut qu'on reparte là ça y est c'est fini. Bon merci beaucoup en tout cas Magali Berda d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous lancez donc la fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Sarah pour les news médias et ces questions on a vu que là à la fin vous avez essayé de l'avoir,
jusqu'au bout,
c'était dur. Excellente journée à toutes et à tous.